France Inter.
Je peux goûter comme ça?
Oui, bien sûr.
C'est bon.
Alors, il fait que moins 12 ce matin. Cette nuit, il faisait moins 22. Je m'appelle Emmanuel Renaud, je suis au restaurant Flocon de Sel à Megève. On va faire un reblochon en croûte, c'est très facile et de saison. On passe en cuisine, il fera un peu plus chaud. Ah, c'est vraiment magique aujourd'hui. Qualité de neige fabuleuse.
Ma grande fierté, c'est de voir des jeunes qui viennent me voir et me disent « Je rêve de travailler chez vous. » Que ce soit dans le service, dans la sommellerie, dans la cuisine. On travaille plus sereinement qu'avant. Nous, il fallait qu'on vole des recettes, des fois, regarder par-dessus l'épaule des anciens. Maintenant, on a un vrai partage, c'est beaucoup plus intelligent et ça les fait avancer beaucoup plus vite.
Bienvenue sur le plateau dont on va déguster pour une toute nouvelle masterclass devant le public du studio 521 de la Maison de la Radio. Bonjour à toutes et tous. Après Anne-Sophie Pic, Philippe Etchebest, Jean-François Piège et Olympe Versini, la grande signature de la gastronomie qui passe à la casserole de cette masterclass épisode 5, c'est Emmanuel Renaud. Bonjour.
Bonjour à vous.
Je suis ravi de vous accueillir, Emmanuel, dans notre studio. Vous nous venez de Megève avec un petit passage à Lyon. Vous êtes dans le club très fermé des chefs 3 étoiles Michelin, 3 étoiles que vous avez obtenues au fourneau de Flocon de Sel, votre hôtel-restaurant à Megève. Nous sommes en Haute-Savoie. Alors on vous rappelle, cher Emmanuel, les règles du jeu de ce format spécial de notre émission. Pendant une heure, on vous cuisine à petit feu avec nos questions, nos surprises gourmandes, notre fameuse séquence de la plaque de cuisson, vous n'allez pas y échapper, ça je peux vous le dire. Il y aura aussi un temps d'échange que vous ont concocté nos deux chroniqueurs qui ont peut-être aussi à la clé des surprises pour vous, Elvira Masson et Jérôme Gagnès. Bonjour à tous les deux.
Bonjour à toutes et tous.
Bonjour à tous.
Notre public est là, on sollicite évidemment, chers amis, votre aide. Nous avons besoin de volontaires pour participer à nos dégustations mais aussi pour poser quelques questions à notre invité. Cette masterclass est réalisée par Laurent Thomas avec Rémi Sistiaga et Corentin Rouchy, Fabrice Rivaud pour la préparation et l'organisation de l'émission, Djoubaka pour la programmation musicale. Et pour retrouver nos masterclass, tout leur contenu, les recettes, les bonnes adresses, les vidéos, rendez-vous sur franceinter.fr à la page On va déguster.
France Inter, les masterclass dont va déguster François-Régis Gaudry.
La masterclass numéro 5 dont va déguster en compagnie d'Emmanuel Renaud. Juste trois lignes de votre CV pour vous resituer. Vous avez depuis quelques jours, votre anniversaire était je crois le 26 janvier dernier, c'est bien ça ?
Exactement.
57 ans ?
Tout à fait.
Ça fait mal ou pas, non ?
Même pas.
Vous êtes jeune ?
Ah oui, dans la tête tous les matins, ça, tout va bien.
On vous surnomme le premier de cordée de la gastronomie française et pour cause. 3 étoiles Michelin, on l'a dit, obtenues en
2012,
ça c'est Flocon de Sel, votre hôtel-restaurant, route du Leta ou du Letaz à Megève ?
Leta, ça va très bien. On le prononce pas.
Route du Leta. Vous portez le col tricolore, ça veut dire quoi ?
Meilleur ouvrier de France en 2004.
Vous en êtes fier ?
Fier du travail effectué et puis fier de mes équipes surtout.
Un col bleu, blanc, rouge. Il y a un avant et un après, nous disent souvent les chefs qui sont titrés du diplôme de MOF.
Alors, l'avant, c'est de vouloir aller vers l'excellence.
Mm-hmm.
Et l'après, c'est de l'honorer, et puis d'être fier de le porter, et puis surtout de continuer à véhiculer l'excellence de notre savoir, de notre pays.
Vous avez un pied en Suisse ?
Tout à fait, hôtel des Horlogers au Brassu.
On est sur un établissement éco-construit, très peu impactant, presque autonome.
Autonome, quasiment, avec une cuisine de terroir aussi, cuisine de terroir suisse aux alentours, avec sourcing très local.
Vous avez également un pied à Chamonix, en Haute-Savoie, pas très loin de Megève. Une grande institution de la vallée que vous avez reprise.
Ouais, un petit hôtel, le Bois-Prin, face au Mont-Blanc. Un hôtel familial, de la famille Carrier. 11 chambres, 30 couverts, voilà, assez intimiste.
Dans une ambiance très chalet, feu de bois.
Tout à fait. On lui a remis un petit coup de frais et on n'a rien changé à la maison pour garder son âme.
Sans vous faire offense, Emmanuel Renaud, vous n'êtes pas le chef 3 étoiles le plus connu ou le plus médiatisé de France ? Vous êtes incontestablement l'un des plus respectés et des plus admirés de vos pairs et des gastronomes. Moi-même, je vous place, je vous l'ai déjà dit, dans mon top 5 personnel des expériences les plus bouleversantes, les plus émouvantes de France, à votre table gastronomique à Megève. La meilleure façon d'en savoir plus sur votre carrière, sur vos débuts, sur votre goût de l'excellence, c'est peut-être bien de convoquer, attention, deux toques célèbres qui ont été sans doute des pères de cuisine ou des mentors, vous allez nous le dire. Ils ont un point commun, ces deux hommes, puisqu'il s'agit d'hommes. Ils ont le même âge. Aujourd'hui, ils ont 74 ans. Alors le premier a écrit une des plus belles pages de la gastronomie française entre la fin des années 80 et le début des années 90, même toutes les années 90. C'était à Paris, tous les yeux et toutes les bouches étaient tournés vers la place de la Concorde à Paris. Vous me voyez venir ?
Tout à fait. Christian Constant.
L'hôtel de Crillon, vous avez eu la chance de travailler à partir de juillet 1988. Je suis allé tendre le micro, il y a deux jours, au chef Christian Constant.
Je me souviens de lui, il avait posé un CV. Je crois que je l'ai rappelé aussitôt. À l'époque, c'était difficile de rentrer au Crillon. Il y avait une sacrée brigade, comme un sous-chef, il y avait Eric Fréchon, il y a Yves Cordebord. On avait une bonne presse, on avait deux étoiles, on méritait soi-disant la troisième. Moi, je dirais que oui. Donc, les gens voulaient venir, les jeunes. Mais Emmanuel Renaud, je me souviens, il était à la sauce. Et en face, il y avait les pâtissiers. Il y avait Christophe Felder, il y avait Gilles Marchal, il y avait Jeannin. Il était toujours en train de regarder ce qui se passait. Je disais à Cordebord, à Fréchon, ce gars-là, il en veut. Il me disait, oui, celui-là, il faut le garder. On sentait, c'était un gaillard, quoi. C'était un gars de la montagne. Et je me souviens aussi, Emmanuel, il travaillait dans un endroit, ça s'appelait le Boc à la Poisson. Mais il en a chié là-dedans un peu. Ça a été dur. Vous savez, au Crillon, c'était des vieux chefs, moi j'étais un petit peu nouveau, et l'équipe s'est faite en partageant, tout le monde participait. Je crois qu'il a appris beaucoup, beaucoup de choses. Et lui, il est parti dans sa montagne, et il fait des choses merveilleuses. J'ai goûté sa cuisine avec ses idées, ses herbes, je sais pas ce qu'il met. Moi j'ai mangé, j'ai été vraiment surpris. Quand vous voulez y arriver, il faut partager. Et je crois que lui, il a partagé, et c'est un des meilleurs cuisiniers. Moi, c'est une des cuisines que je préfère.
Qu'est-ce que ça vous fait, Emmanuel Renaud, d'entendre Christian Constant ?
Bah, disons que c'est un mentor, c'est vraiment... Parce que c'est vrai que la cuisine, c'est souvent les rencontres. Et tous les chefs qu'il y avait à cette époque-là au Crillon, c'était que des gens habités par la cuisine. Ça m'a forgé, ça m'a appris beaucoup de classicisme, beaucoup de rigueur, de travail. Moi, j'aime le travail, je suis besogneux, j'aime bosser. Donc, c'est plaisant pour moi de me lever le matin pour aller travailler. C'est même pas du travail, c'est que du plaisir.
Est-ce que c'est vrai que vous avez eu ce culot de déposer, comme ça, en passant en place de la Concorde, votre CV de manière spontanée ?
Ouais, je travaillais au Loti, chez Dutournier, oui. Du Castiglione. Et un soir, après le boulot, au lieu de prendre le métro directement et de rentrer à la maison, j'ai tapé à la porte, j'ai posé le CV.
Il se trouve que vous avez remplacé par quelqu'un qui venait de partir et vous avez été rappelé illico. Vous avez commencé dès le lendemain.
Tout à fait, ouais, bah, je vois que vous êtes bien renseigné. J'étais à la Société des Cuisiniers, ça veut dire que je faisais des extras. Donc j'ai fait demi-tour, je suis reparti au Loti, j'étais voir le chef, je lui ai dit « Chef, j'ai une place de commis au Crillon ». Il m'a dit « Vas-y ». Tu peux y aller, la porte est difficile à rentrer. C'était à l'époque où il y avait des piles de CV où on arrivait à rentrer nulle part. Il y avait quelques maisons sur Paris comme le Ritz, le Crillon, la Tour d'Argent où ils avaient des piles de CV à plus quoi savoir en faire. Donc c'était vraiment l'opportunité
de... Tout le monde avait envie de travailler dans ces maisons.
Tout à fait, c'était une maison magique.
Combien de temps vous y êtes resté ?
Une année à peu près.
Et ça a vraiment été dur, comme le dit Christian Constant dans le sonore qu'on a entendu ?
Dur...
Dans le Boc à la Poisson, c'est ça ?
Ouais, je faisais un petit peu tout ce qu'il y avait à faire. On travaillait beaucoup, et puis moi je demandais à travailler, parce que plus on travaille, plus on apprend. Et c'est passionnant de regarder les autres travailler. C'est-à-dire que d'un côté on fait quelque chose de besogneux, et de l'autre côté on regarde ce que font les autres. Parce que c'était une époque où les chefs ne donnaient pas les recettes.
Il a travaillé dur, et il a travaillé très dur auprès d'un autre mentor. Et là on va le voir, un mentor pas toujours très commode.
Qui est-ce qui a épluché les pommes de terre, là ? C'est toi qui a épluché les pommes de terre, mon garçon ? Eh ben, t'as encore besoin d'apprendre à travailler, parce que tu vois, si Bernard Lozon ou Joël Robuchon voyaient une chose pareille, eh ben, ils seraient très, très en colère. Alors, tu recommences tout, et tu apprends déjà à éplucher une pomme de terre. Tu es mignon, hein ?
Alors, précisons que ce n'est pas vous, Emmanuel Renaud, qui vous faites engueuler, assaisonné par notre ami Marc Vera, évidemment, ouais. Le chef au chapeau noir, dont vous avez été le second. Vous avez vraiment établi un compagnonnage professionnel avec lui pendant 7 ans.
Oui, tout à fait. Je suis resté 7 ans avec Marc. Et on a toujours de bons rapports. Mais c'est quelqu'un qui est entier, qui est, on va dire, presque bipolaire. Il va être adorable un jour et exécrable une autre journée. Mais c'est comme ça qu'on l'aime. Il est passionnant. Il a plein de belles qualités. Et puis j'ai appris beaucoup. On a appris beaucoup. On a réussi à décrocher la troisième étoile ensemble en 95.
Absolument. Alors vous étiez second de Marc Vera à l'auberge de Léridan, hein, son restaurant à Verrier-du-Lac. Effectivement, vous étiez à ses côtés quand il a décroché le Graal suprême. Vous avez quand même dit de Marc Vera dans une interview qu'on a retrouvée, Marc Vera n'est pas un peu fou, il l'est complètement.
C'est vrai, il est complètement barré. Mais dans le bon sens du terme, hein, il a ses excès de folie et ça fait de lui un génie. Il a été précurseur dans plein de choses, dans la cuisine nature. A amené les herbes sauvages, a amené plein de choses, au même titre que Michel Bras.
Il y a un plat qui vous a, paraît-il, tatoué les papilles au fer rouge en parlant de produits sauvages. C'est un certain rognon à la gentiane. Mais là, on ne parle pas, Jérôme Gagnès, de la liqueur ou de l'alcool.
Non.
On parle de la racine brute qui était intégrée dans un plat.
Tout à fait. Oui, ouais, il y avait de la racine brute. Je suis un grand amateur de liqueur. D'eau de vie et de gentiane. Voilà, j'aime cette amertume, ce côté très brut, très terreux,
qui
donne et qui se mariait vraiment très très bien avec le rognon. Le côté un petit peu savonneux du rognon, un petit peu, il y avait quelque chose d'assez assez exceptionnel.
Et cette racine, elle comment ça se passait, c'est concrètement...
Alors il y avait eau de vie de gentiane,
ouais.
Et il y avait aussi de la gentiane râpée qu'on mettait en infusion pour avoir vraiment ce côté brut, très quelque part violent.
Et vous le faites toujours ça?
Oui, j'utilise la gentiane très très régulièrement.
Vous avez travaillé 7 ans avec ce chef au chapeau noir, Emmanuel Renaud, et pourtant vous êtes réputé pour être super exigeant en cuisine, mais pas vraiment gueulard en fait. Vous êtes même bienveillant, vous enveloppez vos équipes, il n'y a pas trop ces méthodes à l'ancienne, très très dures.
Ouais, c'est ma façon de travailler, j'aime pas le bruit en cuisine. Alors j'ai la chance d'avoir avec moi, à mes côtés, des collaborateurs et collaboratrices. Pour en citer qu'une, c'est Nadine, qui travaille avec moi depuis plus de 20 ans. On n'a pas besoin de se parler, on se regarde, on sait qui fait quoi. J'ai mon deuxième sous-chef qui est japonais, ça fait plus de 10 ans qu'il travaille avec moi.
Oui, donc il y a beaucoup Hiro, de fidélité à vos côtés, j'ai beaucoup d'harmonie.
J'ai Léo, j'ai Quentin, j'ai mon chef sommelier Ludovic qui doit faire plus d'une quinzaine d'années qui travaille avec moi. Mes assistantes de direction, pareil. On a vraiment une équipe, c'est une famille. On a un spa, donc ma masseuse, ça doit faire 15 ans qu'elle travaille avec nous. Donc on est vraiment un noyau de personnes qui se connaissent. Et on n'a pas besoin de crier, on n'a pas besoin de parler. On se regarde, on sait où on va. Je sais que ce soir, je vais retourner en cuisine. Tout sera prêt pour le service et tout sera en place mieux que si j'avais été là.
Et puis on avait envie, Emmanuel Renaud, d'évoquer dans cette galerie de personnages une femme. Une femme qui compte beaucoup pour vous, à titre privé et à titre professionnel.
Christine, mon épouse.
Avec un K.
Exactement.
Pourquoi?
Elle est allemande. On s'est connus à Londres, lors de mon passage à Londres, et c'est vrai qu'elle m'accompagne. C'est la maîtresse de maison qui fait tourner la maison.
Qui orchestre le service en salle.
Exactement.
Et qui, effectivement, a aussi un très beau CV, puisque vous vous êtes rencontrés à l'hôtel Claridge à Londres, où déjà elle officiait en salle.
Elle était FNB. Elle s'occupait des comptes.
Food and Beverage. Est-ce que vous aimez le blues, Emmanuel Renaud?
Oui.
Car c'est la musique que célèbre Megève chaque été.
Tout à fait.
À l'occasion du Megève Blues Festival, je vous sers dans les oreilles Hard Time Killing Floor Blues, un titre de 1965 de Skip James. Et on aborde juste après, dans un instant, votre passion dévorante pour la montagne, celle qui vous nourrit et celle qui inspire votre répertoire. Bon appétit sur France Inter. Hard times in every where you go. Times are harder than ever been before. You know that people, they are drifting from door to door. But you can't find no heaven, I don't care where they go. Mm-hmm.
wondering if I ever can get up off of this old heart-killing floor. Lord, I'll never get out this low no more. Mm-hmm. Times can't last us so long. Just dry long so.
La masterclass d'Emmanuel Renaud, un chef au sommet devant le public. Du studio 521 de la Maison de la Radio. La montagne, Emmanuel Renaud, ça vous gagne. Et pourtant, quand on consulte votre état civil, on se dit, mais quel est le rapport avec la choucroute? Vous êtes né en région parisienne, dans le Val-d'Oise, à 16 km au nord de Paris. D'où vous vient ce rapport viscéral, passionnel avec les Alpes?
Je pense que des vacances.
Oui.
Des vacances au-dessus des Ouches, au Prarion, puis à Saint-Gervais. Et puis autour du Mont-Blanc, voilà, c'est ma passion pour la montagne, que ce soit été, hiver, des grandes balades, la passion de la promenade en montagne d'abord, et plus on goûte, plus on en veut, c'est une drogue.
Du ski l'hiver, du trial l'été, vous êtes même allé très très haut dans le classement des championnats de France de trial.
Ouais, on va peut-être pas aller jusque-là, mais j'ai fait les championnats de France à l'époque, et on m'a dit que c'était pas un vrai métier de faire de la moto, donc je me suis tourné vers la cuisine.
Et vous avez été également chasseur alpin pendant votre service militaire?
Oui, 87 à Chambéry, au 13e BCA.
La Haute-Savoie, c'est un peu votre milieu naturel, un lieu de souvenir, un terrain de jeu, mais aussi, on va le voir un peu plus tard, un garde-manger. Alors Megève, vous avez choisi cette station de Haute-Savoie et vous vous souvenez très précisément de la date de votre installation dans ce village, il paraît?
Oui, premier service, 23 décembre 97. C'était deux jours avant Noël, et je crois que c'était assez catastrophique. Je crois que le premier soir, les toilettes étaient bouchées. Deux jours avant, j'avais mes copains Loubet, Lebec, qui repeignaient avec moi les murs du restaurant pour remettre... j'ai repris une pizzeria.
Et oui.
Donc on était deux en cuisine, une personne en salle.
Mais vous savez que je vous ai connu au début des années 2000 dans ce restaurant Flocon de Sel qui était à l'époque situé au cœur du vieux Megève, une étoile Michelin en 2001. Et puis je vous ai connu ensuite un peu plus tard dans votre chalet gastronomique. Et je me souviens d'une expérience bouleversante, c'était en 2010. J'ai goûté l'un des plats les plus émouvants que j'ai gardé en tête. 2 mm de polenta, cèpe et jus de poulet.
Oui, ça m'arrive de le faire encore de temps en temps. C'était un petit peu un contre-pied à cette polenta qui est normalement est associée au côté rustique et lourd. Donc j'avais voulu faire 2 mm de polenta, donc une polenta très très fine avec des cèpes ramassées fraîchement, peut-être par mes soins.
Mm-hmm.
Et puis un jus de poulet, un jus grillé, parfumé aux genièvres. Parfumé aux genièvres, quelque chose d'assez... assez simple. En général, je mets une petite goutte d'huile de noisette même dessus pour finaliser la gourmandise. Et c'est vrai que c'était vraiment pour montrer que ces côtés rustiques de la polenta peuvent être délicats.
Je me souviens aussi d'un fabuleux cèpe en croûte, puisque vous êtes aussi un cueilleur et que dans les Alpes pousse ce fameux cèpe de Bordeaux que vous glanez et que vous cuisinez de plein de manières, y compris enfermé dans cette jolie croûte moelleuse.
Alors, on n'en a pas beaucoup. Parce qu'il faut que ce soit le bon calibre et il faut qu'il soit ramassé du matin. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il voit le frigo. Puis on l'enferme simplement, c'est une espèce de pâte feuilletée briochée. Et on le cuit 7-8 minutes, ça veut dire qu'il est juste à peine tiède à cœur. Et puis quelques grains de sel, il suffit à lui-même.
Et j'ai eu la chance de revenir le vendredi 26 janvier 2024, autant dire il y a un an. Biscuit de Savoie au sapin. moelleux de courge et butternut, consommé jardinier, bourgeon de cassis et céleri, croûte au fromage, champignons de pays, cardon épineux, comme un risotto à la truffe noire. Alors ce cardon épineux en risotto, il a beaucoup fait parler de lui, le cardon étant un légume qu'on a quasiment oublié, à l'exception de quelques Lyonnais qui continuent à le cuisiner en gratin à la moelle de bœuf. Mais c'est vrai que ce cousin de l'artichaut est un étonnant légume que vous avez à cœur de mettre en avant.
Oui, et on a une variété de cardon qui est malheureusement pour les Lyonnais meilleure que chez eux. Mm-hmm. C'est le cardon épineux argenté de plein palais.
Oui.
Donc c'est une sorte de cardon donc qui est très piquant et qui a vraiment un goût d'artichaut extraordinaire.
On est où ?
Alors nous, on l'a sur Annemasse. Il faut prévoir quand même quasiment 6 mois à l'avance pour l'avoir. C'est-à-dire qu'il est planté au printemps. Mm-hmm. À partir du mois d'octobre, il y a des grandes feuilles vertes. Et là, à ce moment-là, il l'emballe dans du papier journal et dans le noir pour que la chlorophylle parte. En général, on l'a pour Noël, parce que c'est un peu le légume de Noël.
Oui.
Même un petit peu avant Noël, les premiers jours de décembre, on en a. Et à ce moment-là, on peut s'en servir pour plein de choses. Rôti, poché, cuit au foin, en risotto. En tout cas, c'est vraiment un joli, joli légume.
Et il faut imaginer de grandes, grandes tiges épineuses. Il y a ligneuse, d'ailleurs, il y a beaucoup de travail pour préparer le cardon. Et ce qui est émouvant dans votre répertoire, c'est que ce fameux cardon, il est très populaire à Lyon, en Provence, même au nord de l'Afrique, dans les pays du Maghreb, mais également en Suisse. Et en fait, votre démarche culinaire, elle s'inspire de toutes les influences de l'arc alpin, en quelque sorte. Hein. C'est-à-dire qu'on parlait de la polenta, vous allez piocher dans le Piémont, en Suisse, dans toutes les Alpes, vos influences, les influences de votre cuisine.
On va dire que je suis pays du Mont-Blanc et aux alentours. Les frontières ont bougé à travers les siècles entre le comté de Nice et de Savoie. Un coup, on était Savoyard, un coup, on était Italien, un coup, on était Suisse. Donc, les produits, on les retrouve de tous les côtés de la frontière, que ce soit au niveau des fromages, que ce soit au niveau de la charcuterie et puis des légumes.
On va déguster. Sur France Inter.
Votre temps d'échange avec Elvira Masson, c'est maintenant.
Alors c'est devenu presque une tradition dans cette masterclass. J'apporte un petit cadeau à notre invité.
Et oui.
En l'occurrence, j'en ai deux. Jérôme, est-ce que vous pouvez les passer ? Il s'agit de deux livres magnifiques et complémentaires, selon moi, des déclarations d'amour aux arbres qui donnent envie de les regarder, de mieux les connaître, voire de les cuisiner. J'ai pensé que c'était assez adapté à votre goût et à votre tempérament. Mm-hmm. Le plus récent, c'est le plus copieux. Là, c'est la Bible qui est en dessous de l'autre.
Ah vous oui, voyez, gros ça, pavé. Ouais. Couleur, couverture, couleur vert sapin.
600 pages, je crois. Publié à l'automne dernier, il s'agit de « Grimoire et récits d'une cueilleuse d'arbres » aux éditions La Plage. C'est le livre d'une conteuse un peu sorcière, Françoise Kunzmann. Elle vit au nord de l'Ardèche, elle est passionnée de botanique. Elle s'est formée il y a plus de 20 ans à la cueillette de plantes et fleurs sauvages qu'elle utilise dans diverses préparations. Elle est littéralement amoureuse des arbres, à qui elle déclare sa flamme au fil des pages. Il peuple son existence, elle nous en dévoile les secrets, les usages. Il n'y a pas vraiment de recettes ou de cahier de recettes à proprement parler dans le livre. Sinon, des recettes de décoction, d'hydrolat, de macérat, de sirop. Il y a d'ailleurs une recette de sirop de néflier, moi, qui me fait très envie. Et c'est une mine d'informations et d'érudition joyeuse et de textes un peu comme des contes. Le deuxième est plus petit, publié il y a 4 ans. C'est La cuisine des arbres aux éditions Ulmer.
Vous l'avez bien aimé, celui-là.
Je l'ai beaucoup, mais j'aime beaucoup les deux. Mais pour celui-ci, c'est vrai que j'ai un vrai coup de cœur. Son autrice s'appelle Aurélie Valta. Elle est diplomate de profession, passionnée par les plantes sauvages, médicinales et comestibles, et par les arbres, évidemment, dont elle nous livre les secrets de cueillette, de conservation et de cuisine en 40 recettes assez géniales. Tempura de fleurs de magnolia, pesto forestier, chips de feuilles de bouleau pétillant de sureau, pour cuisiner tout de l'arbre, de la feuille au fruit, en passant par le bourgeon et la sève. Et là, en parlant de bourgeon et de sève, je sens que j'ai votre attention, Emmanuel, ça y est.
Non, ça a l'air passionnant. Ça a l'air passionnant. Je suis aussi un amoureux des arbres, des racines. Et je pense que je vais me régaler. Ça me donne envie de les dévorer.
Vous vous décrivez comme amoureux des arbres et des racines.
Tout ce qui est nature, ça veut dire que ma première expérience où j'ai eu un flash sur les... C'était au nord d'Hokkaido.
Mm-hmm. Au Japon,
où on m'a fait goûter de l'eau de bois fait par des Inuits. Et j'ai une mémoire de ce parfum qui était juste du bois torréfié que j'ai retranscrit dans différentes recettes. Et c'est un petit peu, ça a été un déclic de travailler ces racines, ce bois, puis d'arriver à extraire ces parfums et ces balades. J'ai eu la chance d'apprendre beaucoup avec François Couplan. ethnobotaniste qui était passionnant. Bon, des fois, il nous faisait manger des choses qui n'étaient pas très bonnes. Mais il disait, c'est comestible. Et je lui dis, moi, j'aime bien le comestible, mais j'aime que ce soit bon aussi. Mais en tout cas, on a passé des moments avec lui extraordinaires.
En parlant de bon, il y a un arbre qui vous entoure dans votre écosystème et qui est très présent dans votre cuisine, c'est le sapin. François-Régis, vous citiez le biscuit de Savoie parfumé au sapin, que j'ai goûté aussi et qui est vraiment étonnant, quoi, qui bouscule les repères qu'on peut avoir. Vous utilisez le sapin d'abord pour fumer le poisson et même pour fumer le chocolat, mais vous l'utilisez dans plein d'autres préparations.
Oui, pas mal de préparations. Et puis, à savoir que le sapin, il a des saisons. Ça veut dire qu'on va l'avoir en bourgeon de sapin, au printemps. On va pouvoir même prendre que les épines pour en faire de la farine de sapin, où on fait sécher. Avec les bourgeons, on fait même du poivre, quelque chose qui est assez piquant. On va pouvoir faire des vinaigres de sapin, des sirops avec du sapin. C'est-à-dire qu'on met des bourgeons de sapin, du sucre, des bourgeons de sapin, du sucre, et on met ça au soleil. Au bout d'un moment, on arrive à avoir un sirop de sapin qui est juste extraordinaire. Et que ce soit dans l'acide, dans la mer, avec un seul produit, on arrive à extraire plein de choses différentes. Et ça, avec beaucoup d'arbres.
Et le sapin, c'est l'acception des conifères au sens large. Enfin, vous intégrez également le mélèze, le pin douglas, où à chaque fois, il y a, pour chaque conifère, des goûts et des savoir-faire différents.
Il y a des goûts et des savoir-faire différents. Ça veut dire qu'on peut très bien prendre des écorces de mélèze où on peut faire des bouillons qui deviennent tout rouges. C'est un jeu qui est assez extraordinaire. On peut prendre les petites pommes de pin, faire des... Enfin, je veux dire, il y a nos limites.
Oui, vous pourriez préparer un livre sur la cuisine du sapin, en fait.
Pourquoi pas, mais je préfère le cuisiner que l'écrire.
Dans son livre, Aurélie Valta nous propose, je pense, une recette qui ressemble beaucoup à ce que vous veniez de dire, c'est le sirop solaire de sapin. C'est 10 minutes de préparation et 40 jours de macération dans un contenant au soleil.
Et c'est fabuleux. Et ça se consomme toute l'année.
C'est ça.
Pour la toux, c'est très 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 bon.
Voilà. Jérôme. Hein, Jérôme.
Hein, on va vous faire une petite prescription de sirop de sapin. Il y a évidemment des ressources sauvages qu'Emmanuel, hyperactif, va même glaner lui-même parfois ou avec ses équipes dans les pentes de Megève, des Aravis. Et c'est vraiment une très très belle cuisine, notamment fondée effectivement sur les produits sauvages. Dans un instant, on va déguster plein de bonnes choses. Il y a notre troc gourmand, on va s'échanger des produits à déguster, des produits surprises, cher Emmanuel. Et vous allez passer évidemment à notre mythique épreuve de la plaque de cuisson.
Très bien.
Chou, calamassou. Chou, calamassou. Qui m'a poussé à te dire bonjour ce jour-là, sache. Qui m'a sommé de foncer tout droit dans le dosage. Qui me l'a soufflé, m'a soufflé l'idée. Bonjour,
bonjour.
Bonnie, enchantée.
Bonnie, enchantée.
Enchantez-moi, c'est l'amour.
Enchantez-moi, c'est
ton dévolu sur quelqu'un d'autre que moi, Sacha. Pour toi, je pourrais même disparaître.
Bonnie Banane, avec le titre Sacha.
Les masterclass dont va déguster. Sur France Inter.
Et celui qui passe sur le grill de la masterclass dont on va déguster, c'est Emmanuel Renaud. Tout est dit sur la blouse qu'il porte, 3 étoiles sur son poitrail, à gauche, c'est les 3 étoiles Michelin qu'il a obtenues en 2012 à Megève, et le col tricolore de meilleur ouvrier de France, c'est dire si on a affaire à un client. Merci cher public d'être là. On passe à la séquence du troc gourmand. Le troc gourmand, c'est un échange de bons procédés et un échange de bons produits entre nous. La règle est toute simple. Je vous fais goûter un produit à l'aveugle et vous nous faites goûter, cher Emmanuel, en échange, un produit à l'aveugle. Ça vous va comme règle ?
Ça va pas mal.
C'est moi qui commence, puisque c'est moi qui décide. Est arrivé sous vos micros et nous accueillons pour cela un auditeur et une auditrice. Jérôme, bonjour.
Bonjour.
Maya, bonjour.
Bonjour.
Vous aimez de tout ?
Tout.
Vous n'êtes pas allergique au lactose ?
Non, jusque là, non.
Alors ça va aller. Vous avez, je le disais, sous vos micros, ce qui pourrait ressembler à...
Du
fromage.
Fromage fondu.
Oui. Fromage fondu. Pour l'instant, priori... bonne réponse, Elvira. Jérôme et Maya, priorité à vous.
Alors déjà, quel bonheur d'être là. Hein. Ça,
c'est... Merci Jérôme.
De l'art de gagner du temps.
Voilà.
Jérôme auditeur à côté de Jérôme chroniqueur.
Ça va venir, ça va venir.
Mais je vous en prie, Maya.
Au regard, on dirait un peu un fromage de chèvre, un peu avec la croûte qui est un peu affinée. Mais au goût, pas du tout. Et je ne sais pas s'il y a un côté truffe.
Non.
Un
parce
côté
que...
terreux.
Ah, côté terreux, c'est intéressant. Oui. Parce qu'il faut quand même, pour ceux qui n'ont pas l'image, il y en a beaucoup derrière leur poste de radio. C'est effectivement un fromage avec des espèces d'arabesques brunes. Donc c'est un fromage aromatisé à quelque chose. Jérôme, vous en pensez quoi ?
Pas des olives.
Intéressant, il y a des côtés confits comme ça, oui. C'est pas de l'olive. Emmanuel Renaud.
Moi je suis sur la terre.
Ça fait un peu penser à un fromage bleu, parce qu'il y a une amertume qui évoque un peu le fromage bleu. Mais surtout, ce côté très terreux, moi ça me fait penser au blettes, au gratin de côte de blettes qu'on fait.
Intéressant.
C'est un fromage en croûte de terre.
Ouais, moi je le verrais carrément vieillir en terre ou...
Vous verriez le lait de quel animal ?
Oh, la vache.
Ça c'est vache. Ça.
Oui, vache.
Non.
Non.
C'est brebis ?
Oui.
Ah ouais.
C'est brebis. Et c'est doux, que pourrait être ce condiment noir qui vient parfumer ce fromage, lui apporter des notes comme ça, réglissées ? J'ai presque envie de dire aillé.
Oui.
C'est de l'ail noir.
De l'ail noir.
Vous aimez ou pas ?
Ah, c'est très bon, ouais.
Oui, c'est puissant, hein.
Moi j'aime beaucoup
puissant,
le côté terreux.
Mais c'est plus terreux que ail noir.
Je vous donne le
résultat. Il faut vendre la mèche, là.
Je vous donne le résultat des jeux. Ouais. Ce fromage fermier et bio est fabriqué à la ferme du Sapalais par Joachim Anchose à Rossinière. On est dans le canton de Vaud, en Suisse. Alors, à l'origine, dans cette ferme réputée, on fabriquait de l'étiva, cette fameuse pâte dure de vache des sommets suisses. Et peu à peu, notre famille s'est convertie vers les brebis de race Lacone. Et ce fromage est naturellement aromatisé à l'ail noir bio, produit localement par Patricia Sogi, la première femme à le faire en Suisse, sur les hauteurs de Lausanne. Un ail noir bio que j'ai trouvé vraiment très intéressant et c'est un magnifique produit qui a été sélectionné par Augustin Denoux. Il est fromager, maître affineur à la fromagerie Escudier à Boulogne-Billancourt. Voilà, une tome de brebis bio de Suisse à l'ail noir bio.
Mais qu'on peut manger non fondu.
On peut la manger non fondue et vous pourrez d'ailleurs la tester. Tiens, on m'a piqué.
Ah maintenant elle est là.
Et vous pouvez la déguster comme
d'ailleurs.
Ça.
C'est très bon aussi.
On recommande de la faire fondre un peu comme à la manière d'une raclette, mais il paraît qu'elle est délicieuse également et légèrement crayeuse lorsqu'elle est crue. Qu'en pensez-vous ? Ça va ?
Oui, c'est très bon aussi cru.
J'irai les voir, c'est pas loin de la vallée de Joux, donc j'irai les voir. Inconnu, mais...
Et ils font beaucoup de produits autour de la brebis, ils sont d'une grande intégrité, vous l'aurez compris, et ça donne des produits assez extraordinaires, avec effectivement cette tome tout à fait intrigante. C'est nous désormais qui passons à la casserole avec vous, Emmanuel Renaud. Alors là, vous nous avez distribué des petits gobelets en carton.
Oui.
Et on va donner la parole, moi je suis à l'aveugle aussi, hein, totalement. On va donner la parole évidemment à Maya et Jérôme.
C'est bon.
Maya.
Il y a un peu un côté limoncello, Peut-être je me trompe, mais je ressens un peu cet aspect un peu acide, sucré, plus, alcool.
Il y a une fraîcheur, il y a une vivacité, il y a une acidité.
Il y a une amertume incroyable en fin de bouche.
Il y a des reflets vert-verveine, vert-fluo légèrement.
C'est extrêmement parfumé.
Ah oui. Il y a un côté gentiane en fin de bouche.
Oui.
Et végétal.
Génépi un peu, non ?
Bah, en fait, ça fait penser un peu à ces liqueurs montagnardes qui sont empreintes de beaucoup de plantes, et on a éminemment là quelque chose de très végétal. Mais moi, je pense avoir découvert ce que c'est, parce que je dis rien, mais Emmanuel, tout à l'heure, ce que je toussais, m'a donné deux petites pâtes de fruits.
Bah, elles sont où, ces pâtes de fruits ? On n'y a pas droit. Il faut être malade.
Non, oui, vous avez pas malade, monsieur François-Régis Gaudry.
Je tousse. Vite, une pâte de fruits.
Vous avez le droit de goûter une pâte de fruits.
Et je pense que c'est la même origine. Parce que je me suis trompé, moi. Quand Emmanuel m'a fait goûter ces pâtes de fruits, je lui dis, c'est marrant, ça me fait penser à quelque chose de citronné. Et donc, au-delà de la déception d'Emmanuel, voyant que j'avais le palais en spontex, il m'a dit très gentiment, non, ça n'est pas du citron.
Mais pour les pâtes de fruits, c'est vrai que le sapin, c'est quand même quelque part citronné.
Voilà. C'est du sapin ?
Pas dans le gobelet.
Alors, résumons parce qu'on s'y perd. Là, vous avez des petites pâtes de fruits, très moelleuses, voire fondantes, qui sont en forme de demi-sphère. Et là, on parle de pâtes de fruits au sapin. On est d'accord ? Mais là, on est sur autre chose, c'est-à-dire que la liqueur surprise, c'est différent. Vous la verriez déguster comment, Jérôme, notre auditeur ?
En trou normand.
Bon, en ce moment, je l'utilise sur un baba.
Ah, pas bête. Parce qu'il y a une légère rondeur sucrée, mais c'est quand même assez sec.
Matin, midi et soir.
Oui.
C'est pour le rhume, ça va bien se passer.
Avec modération, bon, évidemment. Alors,
j'ai un de mes amis clients, que vous devez certainement connaître, qui fait des agrumes, l'agrumiste.
Mais bien sûr, là vous parlez de Laurent Bougara.
Exactement, il m'a dit je vais t'envoyer des agrumes pas mûrs. Donc il m'a envoyé des agrumes cet été, donc des agrumes qui n'étaient pas mûrs. Alors des petits citrons, des gros citrons, des jaunes.
Mais c'est quand même Maya qui avait dit agrumes. Hein.
Des pousses de feuilles de citronnier. Il m'a fait je crois que j'ai reçu 25 ou 30 kilos de plein de choses. Et il m'a dit amuse-toi avec ça. Donc j'ai récupéré les jus, j'ai récupéré les pots, j'ai fait plein de cuves différentes. J'ai mis à macérer dans de l'alcool neutre de céréales, que je distille. Et j'ai infusé ça avec mes herbes de mon jardin.
Ah.
Uniquement les herbes du jardin, il n'y a pas d'herbes sauvages.
Il n'y a pas un côté un peu serpolet ou un côté...
Il y a un peu de serpolet, il y a de la coriandre. Il n'y a pas d'herbes sèches, il n'y avait que des herbes fraîches. De la sarriette, de la sauge. De mémoire, il y avait peut-être une racine de gentiane dans la grosse cuve.
Oui, parce qu'il y a aussi
y a de l'amertume. Alors, peut-être que l'amertume est apportée aussi par les écorces d'agrumes.
Les écorces d'agrumes. Et j'ai remis le jus des agrumes que j'ai pressé. Voilà. C'est sur l'esprit d'un limoncello, mais c'est plus une liqueur d'agrumes
et d'herbes
du potager.
Voilà. Waouh, bravo, hein, franchement.
Et un petit légèrement sucré.
Et ça, c'est un alcool, une liqueur que vous servez à vos clients sur vos tables gastronomiques ou que vous commercialisez ?
Les deux.
C'est votre nouvelle passion, cette gastronomie liquide, Emmanuel Renaud. On est venu à Megève pour un tournage télé avec Elvira, c'est un secret pour personne, l'an dernier. On avait goûté des choses absolument extraordinaires et vous vous êtes formé en distillerie. Vous travaillez, je crois, avec deux très belles distilleries régionales. Il y a la distillerie du Mont-Blanc et il y a la distillerie du Salève, c'est ça ?
Exactement, deux amis distillateurs qui font des gins et plein d'autres liqueurs de montagne à base d'herbes de montagne qui sont assez extraordinaires. Donc,
mais ce qu'on a goûté de fabuleux, pardon, hein, mais c'est votre Negroni en bouteille.
J'en ai ramené une toute petite bouteille au cas où...
Qui associe gin de montagne avec un vermouth de la maison Dolin à Chambéry, je crois. Hein.
Tout à fait, oui, un très beau vermouth. Même les bitters sont chez Dolin. On le vieillit en fût pendant une année. Et puis quand on décide de le mettre en bouteille, bah, on le commercialise.
Votre créativité débordante passe aussi donc par le verre, par l'alambic, par les cuves de macération. C'est tout à fait passionnant pour des produits tout à fait extraordinaires. Je vous remercie beaucoup, Jérôme et Maya.
Merci.
Merci pour votre pertinence. Il est temps de passer à la plaque de cuisson. Je vais vous demander, cher Emmanuel, de vous déplacer
au travail
pour une recette. C'est un défi qu'on a lancé à tous les chefs qui vous ont précédé à cette place. 5 minutes et pas une de plus pour nous mitonner un plat. Lequel est-il ?
À la base, j'avais prévu de faire des cardons.
Eh oui, mais vous n'en avez pas trouvé, c'est ça ?
On est un petit peu tard dans la saison, donc j'ai remplacé le cardon par le chou rave.
Ah, le chou rave, vive le chou rave. Moi, personnellement, j'adore ce légume lorsqu'il est coupé en lamelles crues, juste avec quelques gouttes de citron. Je peux vous assurer que si vous essayez ça à la maison, c'est un pur régal. Je trouve qu'il y a un goût entre le... On est entre, d'ailleurs, c'est des légumes de la même famille, on est entre le radis et le brocoli.
Je trouve même un goût de noix de coco, moi.
Un peu sucré, ouais.
Alors là, vous êtes en train de l'éplucher ?
L'éplucher rapidement, puisque j'ai pas trop de temps, donc...
On va faire une brunoise.
De petit voilà, dés d'un demi, de quelques millimètres de côté.
De 3 millimètres. J'ai préparé du bouillon de légumes.
Alors ça, c'est un bouillon qui est fait avec...
Je fais que carottes et que de persil. Je mets jamais de poireaux, jamais d'oignons.
Pourquoi?
Parce que je veux pas avoir ce côté aillé. Donc je veux vraiment avoir que de la douceur.
Et là, alors, vous avez rajouté une petite crème de fromage dans votre bouillon.
Exactement.
Quoi comme fromage?
Beaufort. Puis on va mettre un petit peu de fromage râpé. On va regoutter, on va poivrer un petit peu. Le sel, on le mettra à la fin, parce que c'est vrai que le fromage peut des fois saler suffisamment. On va le laisser cuire gentiment pour que ça ait vraiment la consistance du risotto, que ce soit crémeux, gourmand.
Précisons pour ceux qui ne l'auraient pas compris qu'on parle d'un risotto sans riz.
Voilà.
Un chou ravoto.
Ou un nosotto. Ça, c'est mon ami Claude Bozzi qui fait le nosotto.
Nosotto
avec des légumes, pareil, selon la saison. Et ce qui est impressionnant toujours, et moi c'est vraiment le dilemme de faire un risotto, j'ai mon chef à l'hôtel des Horlogers qui est italien, quand il fait le risotto, je lui dis mais il n'est pas cuit ton riz, et quand je fais le risotto, il me dit mais il est trop cuit ton riz. Donc c'est un dilemme, donc chacun fait son riz de son côté, on est tranquille. Alors ce qui est bien, c'est que là on le fait avec du chou rave, mais c'est quelque chose qui peut se faire avec tous les légumes. On pourrait même le faire avec de la pomme de terre, et puis l'agrémenter avec le fromage de sa région.
Il faut garder le légume encore un tout petit peu croquant.
C'est le bouillon de légumes qui va le cuire au fur et à mesure. On va être sur une dizaine de minutes de cuisson. Le légume, il faut le laisser cuire gentiment, que le fromage s'imprègne, que ce soit gourmand. Le plus important dans la cuisine, c'est de pouvoir goûter. Parce qu'on a beau avoir les recettes, ce qu'il faut, c'est pouvoir goûter pour s'arrêter au bon moment.
Là, vous avez rajouté en l'occurrence une petite...
Un petit coup de mascarpone.
Un petit coup de mascarpone pour
l'onctuosité. Le fromage, il n'y en a jamais assez. Le Beaufort, c'est tellement bon.
Ah oui, d'accord, il y va à grosse poignée.
Délicatement, une petite pincée. J'ai ramené un jaune d'œuf séché, quelques petits oignons séchés et quelques petites billes de farine pour juste amener un petit peu de croustillant.
Ça, c'est la touche du chef 3 étoiles.
Voilà, là, ça commence à devenir...
Comme il faut.
On devrait pouvoir déguster dans quelques secondes.
Ouh, on va se régaler.
Allez.
Et vous avez rapporté des fromages. Il y a donc du Beaufort qui circule dans notre public, Emmanuel, mais également...
Un petit reblochon de ma voisine Aline. C'est vraiment la porte à côté. Elle fait de l'abondance l'été et elle fait un reblochon extraordinaire l'hiver.
Fermier, donc.
Rien que le parfum, c'est...
C'est une merveille.
Ouf. Vous nous avez servi. Les assiettes sont sous nos micros. Vous nous rappelez l'intitulé de votre plat?
Risotto, sur l'esprit d'un risotto chou-rave et Beaufort.
Magnifique. Et c'est Romain, un de nos auditeurs qui nous a rejoint au micro pour déguster ce risotto sans riz, mais avec du chou rave. Alors Romain?
Alors déjà merci parce que je suis cheese addict, matin, midi et soir, donc je ne pouvais pas m'y retomber. C'est super bon d'avoir le croquant, conserver le croquant comme ça.
Mais c'est vrai que la texture est formidable, il y a presque une texture croquante un peu de pomme, enfin, il y a un côté ferme et fondant.
C'est ça, moi qui me fascine dans la grande cuisine, c'est toujours ce très subtil dosage des textures. C'est très fromagé, c'est puissant en fromage. Le fromage est magnifique du reste. Hein. Et il y a aussi vraiment le parfum du chou-rave. Aucun des deux ne prend le pas sur l'un ou sur l'autre.
C'est un plat extraordinaire avec des produits tout à fait accessibles, puisque le chou-rave, c'est un légume en plus dont on ne veut plus tellement sur les étals alors que c'est délicieux. Et là, on arrive à avoir un sommet d'émotion avec des ingrédients finalement assez simples.
Non, il faut savoir qu'on a des collaborateurs paysans autour de chez nous et c'est un petit peu eux qui nous dictent notre carte. Entre mes amis qui nous font les légumes, entre mon ami pêcheur qui nous fait les poissons, et c'est selon ce qui arrive où je m'adapte pour faire les menus.
Puis c'est quand même d'une gourmandise extraordinaire ce plat.
Bon Romain, vous ne regrettez pas trop d'être venu?
Non, du tout, je veux savoir combien je dois au chef 3 étoiles.
Non, c'est gratuit aujourd'hui. Et on vous remercie beaucoup Romain.
On va déguster sur France Inter.
Le temps d'échange avec notre chroniqueur vin, Jérôme Gagnez.
Alors, cher Emmanuel, je vous ai apporté deux choses que moi, comme Elvira, j'ai pris pour habitude de faire un cadeau au chef. Alors, il y a un cadeau qu'on boit ensemble et il y a un cadeau que vous rapportez. Vous le boirez tout seul, vous le boirez avec votre épouse, vous le boirez avec votre équipe. Je ne pouvais faire autrement que de vous proposer un vin de Savoie. Ça vient directement de ma cave. Ce sont des vins que j'ai achetés il y a assez longtemps. L'effervescent qu'on va déguster, vous l'avez à votre carte. C'est un vin du regretté Dominique Belluard, très prématurément et très tristement disparu en juin 2021. C'est son Aïs, donc c'est un vin effervescent, c'est une méthode traditionnelle, millésime 2009. Donc c'est l'occasion pour nous de goûter ce vin qui est aujourd'hui arrivé à maturité.
Puis la cuvée Mont-Blanc de Dominique,
vous connaissiez ce vigneron ?
Oui, bien sûr, qui ne connaît pas... j'ai connu son père, j'ai connu Dominique, qui était vraiment un puriste dans sa façon de travailler, un avant-gardiste dans ses méthodes traditionnelles, ses bulles, le Mont-Blanc, c'est fabuleux, c'est... Sur le vieillissement en latte, c'est extraordinaire. Il faisait un boulot de dingue.
Racontez-nous juste, techniquement, en termes de cépage et de terroir, cet Aïs.
Alors, Aïs, c'est un terroir. J'avais fait une chronique ici sur un vigneron qui s'appelle Olivier Gantin. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est tout petit, ouais, c'était oui. Un disciple de Dominique. Et Olivier Gantin, il fait un effervescent comme le fait Dominique à partir du cépage Gringet. Je vais revenir tout de suite sur le cépage. Et je reparle d'Olivier parce que vraiment j'avais adoré ses vins et c'était un homme formidable que j'avais rencontré alors que j'étais censé faire du ski. Mais moi ça me barbe le ski, je préfère aller goûter du vin. Donc j'étais allé goûter chez Olivier Gantin. C'est un cépage qui s'appelle le Gringet, qui est pour le coup endémique. Encore une fois, c'est vraiment un cépage du coin, du village d'Aïs. Aïs, c'est un village qui est collé à Bonneville. On est vraiment presque sur le terroir du Mont-Blanc. Aïs est un village qui produit traditionnellement des vins effervescents, de méthode traditionnelle. Autrement dit, c'est fait à la manière d'un champagne, sauf que c'est un cépage et un terroir qui est éminemment savoyard. Le Gringet, c'est quand même un cépage dont il subsiste. Alors, mes chiffres datent de 2-3 ans, peut-être qu'il en a été planté depuis. En tout et pour tout, moins de 25 hectares dans le monde, et ils sont là, au pied du Mont-Blanc, à Aïs. Dominique Belluard a sublimé ce cépage, l'a fait connaître par la très grande qualité de ses vins. J'ai eu la chance de connaître Dominique relativement tôt, puisque j'avais commencé à travailler avec lui en 2008. Et il a montré qu'il y avait des grands vins blancs sur le terroir du Mont-Blanc.
La preuve dans nos verres, avec ce pétillant au reflet légèrement cuivré.
Et puis cette évolution de millésime, c'est magnifique. Et je m'amusais avec Dominique il y a une quinzaine d'années, comme on disait à Aïs, les bonnes années, il connaît la blague, les bonnes années on nettoyait les carreaux avec et les mauvaises années on les rayait. Et ça c'était il y a 20 ou 30 ans, tandis que maintenant des flacons comme ceux-là on les garde précieusement et c'est vraiment un immense plaisir de le partager ensemble parce que c'est une bouteille extraordinaire.
Et puis, le vin que vous allez rapporter, c'est un magnum parce qu'il y a un moment, il faut quand même qu'il y ait de quoi boire.
Pour partager.
Pour partager, exactement. C'est par ce domaine que j'ai découvert les vins de Savoie, à la fin des années 90. C'est un cru que j'affectionne particulièrement. Alors, on est à Jonjieux. Jonjieux, c'est... Vous êtes sur le lac du Bourget. Vous allez traverser la montagne du Chat. Il y a un tunnel comme ça qui trace la montagne du Chat. Et juste à la sortie du tunnel, alors je ne sais pas si cette route existe toujours, mais vraiment, tout de suite, vous ne plantez pas parce que c'est vraiment à la sortie du tunnel. Hein, il faut ralentir. Et tout de suite à droite, vous avez une petite route qui descend et qui va vers Jonjieux. Et en arrivant au domaine, vous allez passer devant le coteau de Maretel. C'est un coteau extraordinaire, argilo-calcaire, c'est un très très grand terroir, et on y cultive en particulier la roussette. Alors la roussette, c'est le nom du vin, dont le cépage s'appelle l'Altesse, c'est un cépage autochtone, c'est un cépage savoyard, c'est un cépage extraordinaire, ça donne des grands vins blancs secs, ça donne des très beaux vins liquoreux, c'est un cépage protéiforme, et c'est un des cépages identitaires de la Savoie. Et je suis très heureux de vous offrir ce magnum de Roussette Maretel 2010.
Waouh !
Merci beaucoup, j'adore du Pasquier. Maretel, en traversant le tunnel du Chat, où il y a un de mes anciens qui s'est installé, les Morinières, Michael Arnoux, qui est un restaurant extraordinaire et qui est à quelques kilomètres de Maretel. C'est vrai que c'est un domaine extraordinaire et je me ferai un grand plaisir de le partager avec mes équipes.
Je voulais vous poser une question, c'est est-ce que vous commencez à vous intéresser au vin grâce au vin de Savoie ?
Entre autres, mais c'est vrai que les vins de Savoie sont extraordinaires. Le premier contact de vigneron très proche, c'est Michel Grisard.
Oh, ce qui est une légende.
Qui est un de mes bons amis. C'était un petit peu le précurseur dans les vins nature, où tout le monde le montrait du doigt comme quoi il était fou, parce qu'il y avait peu de rendement, il faisait peu de vin, il faisait vieillir avec des élevages un petit peu à la bourguignonne. Et il a des vins qui sont juste fabuleux. Il a arrêté il y a une dizaine d'années. Dernier millésime 2014, qu'il a laissé en appellation Vin de France,
oui.
Mais qui est juste fabuleux. Et je pense que c'est Michel qui m'a un peu éduqué dans les vins de Savoie. Je suis un drogué de Mondeuse, donc le cépage rouge. Et j'ai même un tout petit peu de vignoble, j'ai repris un petit peu de vigne à Louis Trosset,
Donc, c'est un excellent, c'est un grand vigneron aussi de Mondeuse, un grand vinificateur.
Avec un terroir de Mondeuse extraordinaire. Et j'ai 39 phares, donc on fait 2000 bouteilles par an, que je vinifie avec lui et Céline Jacquet. C'est plaisant d'aller dans les vignes, de tailler, de cueillir. C'est de la cuisine, mais avec des raisins.
C'est du jardinage. Jérôme, rappelez-nous juste les références des deux cuvées.
J'ai offert à Emmanuel pour le retour en Savoie un magnum de Roussette de Savoie, cru Marestel 2010 du domaine du Pasquier. Véronique et David du Pasquier qui ont pris la suite de leur père Noël. Et puis, nous sommes en train de déguster sur le plateau un Aïs, un vin de Savoie effervescent Aïs, cuvée Montblanc 2009 du domaine Belluard.
Un grand merci, Jérôme.
Que l'on trouve à quel prix, pardon ?
Ils sont dans ma cave.
D'accord.
On n'en trouve plus. C'est vraiment ma réserve personnelle, ça.
Le fromage que nous a apporté Emmanuel Renaud circule dans notre public. Il y avait du Beaufort, mais également le reblochon de la voisine d'Emmanuel Renaud. Madame, vous en pensez quoi ?
Ah ben le Beaufort est délicieux.
Et comment vous appelez ?
Et Gloria. Et je ne connais pas énormément le fromage. Ma belle famille est de la Haute-Savoie. C'est top.
Sachant que le Beaufort, on le trouve beaucoup, mais il est produit en Savoie. Hein. Et c'est un fromage extraordinaire. Même sur le plan de la fabrication, on est vraiment sur un modèle agro-pastoral tout à fait exemplaire.
Oui, tout à fait. Alors, il y a les Beauforts d'alpage qui sont au-dessus de 2000 mètres, où c'est des fermes uniquement une seule ferme, ça veut dire deux traites par jour. L'hiver, les foins doivent avoir été récoltés sur le lieu. Donc, il n'y a plus beaucoup de personnes qui en font, enfin, plus trop. Et il y a un cahier des charges, ça nous permet d'avoir zéro pesticide dans tous nos prés. Les vaches, les Beauforts d'été où ils ramassent le carvi, ou les serpolets, et ça donne ce goût de fromage extraordinaire.
On est en train de déguster également un superbe reblochon fermier que vous nous avez rapporté. Et bien justement, on finit avec cette question. Emmanuel Renaud, à 2 semaines du début des vacances de sport d'hiver, plein feu sur un plat qui va gratiner dans beaucoup de foyers et pas seulement dans les Alpes. D'ailleurs, je pense que les vins de Jérôme pourraient très bien accompagner ce plat. Je parle évidemment de la tartiflette. Parce que j'ai goûté, Emmanuel Renaud, une recette de tartiflette signée par vous à l'hiver 2020. À la carte du Lazare, la brasserie de votre ami Éric Fréchon, avec qui vous avez donc travaillé chez Christian Constant. Il a une brasserie dans la gare Saint-Lazare à Paris. Il y avait du reblochon, mais il y avait également, alors est-ce que c'est lié à l'origine normande d'Éric Fréchon, de la crème fraîche. Et pas qu'un peu. Je vous ai même piqué cette recette, qui s'est retrouvée dans mon dernier livre, paru en novembre dernier. Or, vous avez déjà déclaré dans des interviews qu'il n'était pas question de mettre de la crème fraîche dans la tartiflette, seulement du reblochon. Ma question est la suivante. La crème est-elle un crime dans la tartiflette ?
Le gras, c'est la vie, donc un peu plus de gras, dans la tartiflette, c'est pas vraiment gênant. Alors, je pense que si on fait une tartiflette avec du reblochon comme on goûte là, on n'a pas besoin de rajouter de crème. Par contre, si on a un reblochon un peu moins affiné, je pense que là, à ce moment-là, ça va permettre d'amener de la gourmandise et du gras. Mais ça, c'est le coup d'œil. Et puis un petit peu de crème, ça ne fait jamais de mal.
Et comme on est sympa, on a mis votre recette de tartiflette avec crème fraîche sur le site internet de l'émission. Comme d'ailleurs votre recette de risotto, enfin façon risotto pour un chourave. Dernière question, Emmanuel Renaud. Vous avez déclaré dans le journal Le Messager, j'ai 56 ans. Alors aujourd'hui, désolé de vous dire que vous avez 57. Et je ne me vois pas à 70 ans en cuisine. J'ai envie de pouvoir profiter en allant me balader en montagne, en allant à la pêche.
C'est vrai que j'ai plein de passions à côté de la cuisine, que ce soit la pêche, les cueillettes, tout ce qui est proche de la nature. Donc oui, c'est vrai qu'à 70 ans, j'ai envie de pouvoir galoper et promener dans les montagnes.
Ça veut dire qu'il vous reste quoi, 13 ans de marge ?
Ouais, je sais pas, en tout cas, moi ce que j'aime dans ma cuisine, c'est être avec mes équipes. Et puis de toucher à la matière. Et puis d'être toujours heureux quand je viens en cuisine le matin. Donc peut-être qu'à 80, j'y serai encore. Tant que je prendrai du plaisir, j'arrêterai pas.
Merci Emmanuel Renaud. Un grand merci de vous être prêté au jeu de cette 5e masterclass dont on va déguster des vidéos, des recettes, des bonnes adresses sur franceinter.fr à la page on va déguster. On peut retrouver votre magnifique cuisine à Flocon de Sel, votre restaurant 3 étoiles de Megève. Mais il y a également Flocon Village, on n'en a pas parlé, mais c'est un bistrot beaucoup plus accessible au cœur de Megève.
Alors, le Flocon de Sel pour quelques mois est en travaux. Donc on fait notre cuisine gastronomique au Flocon Village.
Mm-hmm.
Et la cuisine qui était au Flocon Village, on l'a transférée sur la place du village au prieuré.
D'accord.
Le temps de faire la rénovation du Flocon de Sel qui réouvrira dans quelques mois.
Très bien, merci beaucoup et à la prochaine. Merci Jérôme, merci Elvira.
Merci à tous et bon dimanche.
À la prochaine et merci cher Emmanuel. Public, merci d'avoir participé à cette émission. À dimanche prochain, si vous avez encore faim.